Patrick Pierrard, vous êtes le fondateur de l'entreprise Infobref.com, une infolettre bi-quotidienne retraçant l'actualité du jour avec un email envoyé le matin et l'autre en fin de journée. Préalablement à Infobref, vous avez œuvré dans plusieurs projets d'envergure. Le plus important d'entre eux, Branchez-vous, une entreprise que vous avez pilotée de 1995 à 2011, a même été achetée par Rogers Media pour 25 millions de dollars au début des années 2010. Patrick Pierrard, merci beaucoup d'être sur le podcast avec nous aujourd'hui.
Merci, bonjour, ça me fait plaisir.
Et Patrick, vous œuvrez dans le monde du contenu et du marketing depuis belle lurette déjà. Puis avant de parler de ces différents projets, peux-tu nous ramener un petit peu dans ton actualité du moment avec Infobref, un projet que tu as lancé il n'y a pas tellement longtemps, je crois bien.
Oui, ça fait maintenant presque un an et demi. Infobref, c'est un média d'information qui résume l'actualité importante pour les gens qui travaillent à temps plein et qui n'ont pas de temps à perdre, qui aiment aller droit au but. Alors, on leur envoie, comme tu l'as dit, deux infolettres quotidiennes. Une tôt le matin, qui se lit en 5 minutes, et l'autre à 16 heures, qui se lit en seulement 2 minutes. Et ces infolettres sont des bulletins qui résument l'essentiel des nouvelles à connaître, plus particulièrement en économie, en politique, en technologie, un petit peu dans l'actualité internationale. Alors, c'est idéal pour les gens qui veulent savoir ce qui se passe dans l'actualité, mais qui n'ont pas une heure ou une demi-heure pour consulter les journaux, une application de nouvelles, les sites de nouvelles, essayer de passer au travers des titres, voir ce qu'il y a d'intéressant, etc. Nous, on fait déjà la sélection qui met en valeur les sujets qui sont pertinents pour les entrepreneurs, les gestionnaires et les professionnels. Et on les résume en quelques phrases, de façon factuelle ou en quelques paragraphes. On donne juste les faits de façon neutre. Il n'y a pas de chronique d'opinion, comme on en voit de plus en plus. C'est très simple, très sobre. C'est conçu comme un briefing de l'actualité et c'est entièrement gratuit. Alors les gens peuvent voir un exemple en fait sur la page d'accueil de notre site infobref.com. Et puis ils peuvent s'inscrire. Ça prend 15 secondes pour s'inscrire. Et après ça, ils vont recevoir des infolettres quotidiennes. Et ça fonctionne très bien. On a lancé donc à l'automne 2020 et on a déjà plus de 6 000 abonnés qui sont très contents, qui nous font des très bons commentaires. On a fait un sondage récemment qui a montré leur engagement et leur satisfaction.
Puis on invite l'audience aujourd'hui à aller jeter un petit coup d'œil à l'infolettre que moi-même je suis abonné depuis un certain temps déjà et j'aime beaucoup. Donc on mettra un lien dans les notes du podcast. Maintenant, on va faire un petit retour en arrière, Patrick. Comme j'ai dit plus tôt, le contenu et le marketing, ça te connaît, c'est quelque chose dans lequel tu œuvres depuis un certain temps déjà. Ton premier projet, Branchez-vous, a été lancé en 1995. Es-tu capable de nous ramener au moment de la fondation? Qu'est-ce qui t'avait poussé à vouloir te lancer dans cette catégorie à ce moment?
C'est un mix de choses. D'une part, moi, j'étais journaliste de formation et je couvrais à ce moment-là le monde des médias, du marketing et de la publicité pour un magazine qui couvrait ça, qui s'appelait Infopress, qui était la référence dans le domaine. Mais en même temps, j'étais très intéressé par les nouvelles technologies de façon personnelle, mais aussi un petit peu entrepreneurial avec une idée un petit peu vague, mais qui était que à chaque nouvelle technologie qui arrivait, il y avait des nouveaux médias qui pouvaient se créer. Parce que les médias d'information, surtout, ça dure longtemps. On a des quotidiens qui ont plusieurs centaines d'années, qui sont là depuis très très longtemps. Donc c'est très très percer dans ces marchés-là, c'est difficile. Par contre, chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, une nouvelle plateforme, là, il y a une nouvelle génération de marques, de contenus, d'état d'esprit qui vient s'installer. Et donc ça m'intéressait. Je voulais voir comment essayer d'exploiter ça. Puis d'autre part, moi, j'avais lancé une petite entreprise qui faisait, alors ça s'appelait pas à ce moment-là du marketing de contenu, j'appelais ça du média sur mesure, ça s'appelait Corpo Media. On faisait des infolettres, mais des infolettres écrites pour des clients, et puis des textes, des petits magazines aussi pour des clients. Et puis, je regardais Internet et je me disais, oulala, parce que là, c'était les débuts du web, vraiment. C'était en 94, 95. Comment on pourrait exploiter ça? Et je me suis dit, je vais faire mon marketing en faisant du contenu. Donc, pour montrer que je suis capable à des clients de faire des contenus sur Internet, et puis à quoi ça va ressembler, on ne sait pas trop, je vais commencer à en faire moi-même et je vais faire une infolettre qui va s'appeler « Branchez-vous » et puis qui va juste parler de qu'est-ce qu'il y a de nouveau et d'intéressant en français sur Internet. C'est-à-dire que l'infolettre était en français, mais on parlait aussi de choses qui se passaient aux États-Unis parce qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose qui se produisait encore en français à ce moment-là. Et donc, j'ai lancé une toute petite infolettre que j'ai envoyée aux quelques personnes que je connaissais qui avaient une adresse de courriel à ce moment-là. Donc, des gens un peu en communication, etc. Et puis, c'était mensuel. Je faisais ça, il n'y avait pas d'image. Je faisais ça sur un système en ligne qui s'appelait eWorld. Et il y a eu un intérêt assez fort. Alors, au début, j'ai eu un intérêt de qui? De bibliothécaires. Pourquoi des bibliothécaires? Parce que c'était les seuls à avoir des adresses de courriel à ce moment-là. Ils étaient branchés. Et donc, eux, pour eux, c'était du contenu en français. Il y en avait très, très peu. Il n'y avait pratiquement pas Bon, c'était le début du web, là, parce que ça a commencé, en fait, avec Mosaic en 1993 et puis Netscape en 94. Donc, j'ai commencé ça. Et après la première édition, j'ai eu un appel de quelqu'un que je connaissais par mon travail, qui était le directeur, le vice-président média de Cossette, la principale agence de publicité au Québec. Il m'a dit, écoute, c'est intéressant, ça, est-ce qu'on pourrait s'associer à ça en le commanditant? Parce que tu sais, nous on regarde, etc., les nouvelles technologies. Bah, je dis, écoute, oui, ça doit pouvoir s'arranger. Ils sont devenus commanditaires. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait un intérêt. Je suis passé à un rythme hebdomadaire. Et puis, aux États-Unis, le magazine Wired, qui était le magazine des technologies qui existe toujours, avait un site qui s'appelait Hot Wired. Et en 94, il a diffusé la première bannière publicitaire, le premier bandeau publicitaire. Et il y a eu un intérêt et ça a lancé, ouvert l'idée que, waouh, il y avait un potentiel de marché pour faire du média sur Internet, du média sur le web avec de la publicité. Et que donc, il y avait un potentiel vraiment important. Donc, j'ai transformé à ce moment-là l'infolettre qui, au départ, était cette fête pour faire la promotion de mes services. Mais non, c'est devenu un média à part entière. J'ai vu qu'il y avait un potentiel. Pour moi, c'était un rêve auquel je pensais pas avoir les moyens d'eux parce que j'avais pas de capital, j'avais pas de... Et puis, très vite, c'est parti. On a fait une conférence de presse. On a monté le site en quelques mois, en fait, avec l'aide d'une agence spécialisée, en inventant le CMS, parce que il y avait pas de plateforme, il y avait pas de solution. WordPress était pas là. On a fait une conférence de presse. On a joué dans les communications très bien, avec un ami, Benoît Pilon, qui s'est occupé des relations de presse de façon exceptionnelle. On a fait une conférence de presse de lancement. Il y a eu 100 personnes. Et à partir de là, on a eu des mentions dans les médias, on s'est installé et on est devenu un joueur, un pionnier. Assez vite après, une filiale de Bell Canada, avec qui on... En fait, Bell Canada était commanditaire de Branchez-vous au moment où on l'a lancé, parce qu'eux aussi cherchaient, en fait. Eux, ils étaient dans l'autoroute de l'information. Tout ce qu'on dit aujourd'hui, Internet, le web, comme si c'était des choses... À ce moment-là, on savait pas du tout où ça allait s'en aller. Est-ce que c'est un fad? Est-ce que c'était et puis on a développé une relation. Ils avaient un gros projet qui s'appelait Sympatico, qui était un gros portail, un service d'accès Internet, etc. Ils avaient une grosse équipe à Toronto là-dessus. Au Québec, ils avaient personne pour la version française, donc ils nous ont donné un mandat pour lancer la version française de Sympatico, s'occuper du contenu de français Sympatico, et en même temps ils ont pris une participation minoritaire dans l'entreprise, donc ils ont injecté du capital, pour eux des broutilles, des petits montants, mais pour nous c'était énorme. Ça m'a permis d'embaucher des gens, de prendre de la place et de s'installer, finalement de prendre une avance pour être un des principaux et par la suite je dirais le principal joueur vraiment indépendant sur le web. À ce moment-là, on l'était pas tout à fait, il y avait d'autres joueurs, il y avait notamment un joueur qui était la Toile du Québec, qui avait été monté par des gens qui étaient un répertoire, donc plus un Yahoo, mais bon, eux se sont associés dans les années suivantes avec Vidéotron, ce qui a fait que bon bah on est devenu à ce moment-là l'indépendant qui restait, et puis on a grossi à partir de ça. On a lancé d'autres sites, on a lancé un magazine imprimé. C'était hot à ce moment-là de faire un magazine imprimé pour parler de ce qui se passait dans le numérique. Donc on a fait le magazine Branchez-vous, on a fait une version du magazine pour les abonnés de Sympatico, et puis après ça on s'est développé avec la publicité. Ça a pris quand même beaucoup beaucoup de temps. Avec le recul, là ça a l'air d'une évidence, mais au début, les premières années, il y avait rien. Il fallait vraiment gratter pour les convaincre d'essayer de mettre de la publicité sur Internet. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça va donner? Pourquoi?
C'était nouveau à ce moment-là. Puis, ce qui est intéressant, c'est que vous lancez, ou plutôt, l'entreprise a été fondée, je pense, en 1995, comme on le dit. Mais vous faites votre entrée sur la bourse, le TSX de Toronto de croissance en 2001. Qu'est-ce qui vous a poussé à ce moment-là à rendre l'entreprise publique? Parce que bien entendu, aujourd'hui, la dynamique est différente. Hein? Donc, je pense que ça va peut-être pouvoir nous ramener à des réalités de l'époque. Mais aujourd'hui, amener une entreprise à la bourse, des fois, ça va vraiment être la dernière étape de notre stratégie de commercialisation en tant qu'entreprise. C'est un petit peu différent à l'époque. Peux-tu nous ramener à ce moment-là à cette réflexion-là que vous aviez à l'interne de pourquoi on irait public?
C'était un mélange de réflexion et beaucoup de contraintes aussi et d'environnement. C'est-à-dire que il y a eu dans la deuxième partie des années 90, et même ça a commencé en fait dans les années 90, ce qu'on a appelé la folie des dot-com. C'est-à-dire que les entreprises, parce que bon, même si Il y avait encore beaucoup de flou sur où ça allait s'en aller, quelle ampleur ça allait prendre. C'était clair, notamment pour les gens de capital de risque aux États-Unis habitués à investir dans des entreprises de technologie, que l'avenir était là et que le potentiel était gigantesque. Et donc, ils ont supporté beaucoup d'entreprises, des entreprises sont devenues... Et tu as tout à fait raison de dire que normalement, c'est la dernière étape de devenir public. Sauf qu'à ce moment-là, il y a eu tellement d'argent injecté très vite pour, il fallait prendre de l'espace. Donc, les entreprises devenaient publiques beaucoup plus tôt quand elles avaient encore peu de revenus et sûrement pas de profits. Et la certitude de perdre de l'argent pendant encore plusieurs années. Donc, l'environnement était beaucoup plus favorable à ça. D'autre part, nous, on a eu quelque chose de très circonstanciel. Comme je te le disais, une filiale de Bell Canada était devenue actionnaire chez nous, ce qui était, on avait une relation avec eux excellente, on faisait leur représentation publicitaire, etc. Mais à un moment donné, ils ont dit, c'est devenu stratégique pour eux. Puis ils m'ont passé le message que j'ai pas bien compris parce que j'étais un jeune entrepreneur et que écoute, ce serait bien que on te rachète parce que si on te rachète pas, on va peut-être plus faire affaire avec toi. J'ai pas bien compris le message. Puis j'ai dit non, moi j'ai pas envie de me faire racheter, je veux rester indépendant, etc. Puis ils ont dit pas de problème. Et dans les 6 à 8 mois, ils m'ont enlevé 3 contrats que j'avais avec eux et qui représentaient 80% de mon chiffre d'affaires. Et ils devenaient un de nos principaux concurrents. Ils allaient vendre de la pub sur Internet avec Sympatico, avec une grosse équipe, évidemment, une puissance, etc. Et là, ils étaient actionnaires minoritaires. Mais moi, je pouvais pas les racheter. J'avais pas l'argent pour être capable de remettre leur petit montant. Et là, il y a des gens qui sont venus nous voir, qui eux, et regardaient le marché public, qui étaient des investisseurs. Et puis, qui se disaient, on pourrait aller en bourse, on pourrait lever de l'argent. On a du capital même des gens qui venaient des États-Unis, qui étaient intéressés. Le capital est effectivement venu. Le capital principal est venu des États-Unis et non pas du Québec à ce moment-là pour aller en bourse. Et puis là, on regardait autour de nous. Puis tu vois, je te parlais tout à l'heure de la Toile du Québec, qui était au départ un site indépendant, mais dans lequel il y a aussi des investisseurs qui se sont associés. Ils sont allés en bourse, je pense, un petit peu avant nous. Et pendant quelques jours, ils valaient 1 milliard en bourse. Alors que leurs revenus, écoute, je sais pas de combien ils étaient, mais je suis pas sûr que c'était 100 000 dollars par année. Mais c'est parce que des toutes petites capitalisations, il y avait un vent de folie, etc. Donc on s'est dit, écoute, c'est l'occasion de rester indépendant, de pouvoir acheter la participation, en même temps d'avoir du capital. Donc on avait un peu plus d'un million, 1,5 million de dollars, ce qui pour nous était colossal à ce moment-là pour une toute petite entreprise, et puis qui va nous permettre de s'installer. Donc la réflexion a été celle-là. Maintenant, les conditions dans lesquelles ça s'est fait, c'est un petit peu différent. C'est parce que toute cette démarche-là a commencé en 2000, au moment où on était en haut de la bulle, était la plus grosse, on était au sommet là. Mais sauf que ça a pris pour nous, je pense, 9 mois, parce que ça prend toujours du temps évidemment pour aller en bourse. Donc entre le moment où on a commencé et le moment où on est arrivé en bourse, là il y a un petit événement qui s'est passé, c'est que la bulle, elle a dégonflé, puis elle a dégonflé à toute vitesse. Ce qui fait que le jour où on est arrivé en bourse, on était pas mal dans le creux de la pente. Heureusement pour nous, heureusement pour moi, on avait sécurisé le financement et avant cette explosion-là. Et donc, on n'a pas été impacté directement, on a été impacté par la suite parce que on était un penny stock, c'est-à-dire une action qui vaut, qui se calcule en cents plutôt qu'en dollars, ou en dizaines de cents. Après ça, on a vécu comme les affres d'être une société publique avec très peu de revenus et donc de passer, ça a été un très roller coaster, montagne russe pendant de longues années. Mais finalement, la bulle, après l'explosion de la bulle, le marché a repris d'abord très lentement, mais sur des bases beaucoup plus saines, avec une proportion de gens qui étaient sur Internet beaucoup plus importante, un intérêt qui vraiment se confirmait, et pour monter vraiment à ce moment-là une vraie business.
Bien sûr. Puis vous avez passé quand même à travers les époques. Donc, faut le dire, même s'il y a eu cette bulle-là qui a explosé au début des années 2000, vous avez entré à la bourse en 2001 et l'entreprise a été achetée, acquérie par Rogers Media, et on va en parler dans quelques instants, en 2011. Donc, il y a quand même eu 10 ans que vous avez été capable de faire des bonnes affaires, même en étant une entreprise publique. Peux-tu nous parler un petit peu de ces montagnes russes, comme tu l'as défini un petit peu plus tôt?
Je dirais que la grosse montagne, c'est celle dont je viens de te parler, parce que ça a vraiment été la chute. On est descendu au fond. Le marché, en 2001-2002, il n'y en avait pas. Tout le monde était sûr que ça y est, ceux qui ne croyaient pas avant aux entreprises.com avaient maintenant les démonstrations qu'ils avaient bien raison. Regardez, ils se sont tous cassés la figure. Il y a eu plein de faillites dans les entreprises, maintenant des entreprises publiques. Nous, on était, parce que avant, j'avais eu du financement, j'avais embauché, je pense, on était 15 personnes. Un an après, J'avais congédié la grande majorité des gens. On n'était plus que quatre. Donc, on était une société cotée en bourse avec quatre employés. Mais on a rebâti à partir de là. Et puis, à partir de là, tranquillement, bah, la pub est arrivée. On a développé une activité qui a vraiment été l'activité, je dirais, motrice au niveau de l'argent et des revenus, qui était la représentation publicitaire, qui est un modèle, en fait, de distributeur. C'est-à-dire qu'on s'est dit, à partir du moment où on vend de la publicité, on doit être, il faut qu'on soit le plus gros possible, parce que en publicité, il y a vraiment une prime à la taille. Ça fait, je veux dire, si t'as deux joueurs face à face, dont l'un a deux, toutes choses égales par ailleurs, qui a deux fois plus d'audience que l'autre, il n'a pas deux fois plus de revenus. Il en a quatre fois ou cinq fois plus. Parce que il offre plus de solutions, c'est plus facile de faire affaire avec lui, il offre des plus grandes capacités de ciblage, etc. Donc nous, pour pallier notre... parce qu'on était le plus gros, un des plus gros ou le plus gros indépendant, mais en face à nous, il commençait à y avoir des Yahoo, il commençait à y avoir des portails. On a regroupé de plusieurs sites pour faire de la représentation publicitaire, pour faire un réseau. Et avec ça, on avait une masse critique qui permettait à ces sites qui indépendamment auraient eu du mal à se commercialiser de bien se commercialiser. En même temps, on faisait la promotion d'une marque, donc on a mis tout ça sous le nom Branchez-vous. Et puis en même temps, ça bénéficiait à la marque, c'était plus facile pour les vendeurs de pubs. Et au niveau du modèle économique, nous on prélevait une commission qui était une commission de vente. Alors évidemment, c'était une minorité des revenus, mais de quelque chose de relativement régulier. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on a pu développer par la suite, même après une acquisition, puis une fusion avec une autre entreprise sur le marché à Toronto. Et donc, ça devenait une business. On était plus de 10 millions de dollars de revenus de vente pub par année. Ça a pris 10 ans pour remonter ça. Rien ne se fait rapidement. En tout cas, c'est une chose que ça m'a appris, c'est que ça prend toujours beaucoup plus de temps que ce qu'on peut espérer et qu'on croit avoir calculé.
Si vous écoutez le podcast Hypercroissance, j'assume que vous dirigez une entreprise qui désire obtenir une croissance accélérée. J'imagine également que beaucoup d'entre vous possédez une organisation qui vend en ligne et qui désire aller chercher plus de parts de marché. Eh bien, si c'est le cas, sachez que J7 Media veut vous aider. Et la première étape pour vous donner un coup de main avec votre croissance est de diagnostiquer votre situation actuelle. Donc, si vous possédez un commerce en ligne et que vous désirez l'amener à un niveau supérieur en 2022, rendez-vous au www.j7media.com/diagnostic. Donc, je le répète, www.j7media.com/diagnostic afin d'obtenir 100% gratuitement une analyse de vos performances numériques. L'équipe qui est derrière plus de 30 millions en investissement publicitaire Facebook à l'année veut vous aider à grandir et tout se commence par un diagnostic de vos efforts actuels. Donc, je le répète, j7media.com/diagnostic afin d'obtenir une analyse 100% gratuite. De retour à l'épisode en cours. Puis, ultimement, l'entreprise s'est fait acquérir pour 25 millions de dollars par Rogers Media. Peux-tu nous parler un petit peu de cette transaction?
Oui, écoute, il y a plusieurs facteurs. C'est que même si la business allait bien, puis honnêtement, ça allait bien au sens où les revenus croissaient de façon significative, on était rentable, etc. L'entreprise avait là maintenant une quarantaine de personnes. Sauf que, en même temps, on avait un peu un plafond. C'est-à-dire que même si on était le principal indépendant clairement au Québec et puis un indépendant important au Canada, on restait quand même face à des grosses boîtes que on ne rachèterait jamais. Tu veux, les opportunités de consolidation qu'on pouvait avoir, nous, en étant société publique, on l'a fait un peu. On a fait donc une fusion, on a fait des petites acquisitions. Mais c'était quand même un peu limité. Et puis, on était dans une business qui était nationale, mais pas internationale. Donc, on n'est pas dans de la technologie pure. On avait pratiquement aucune chance de sortir des frontières du Canada. Le potentiel qu'on avait aussi en bourse était limité. On était toujours un penny stock. Comme il y avait très peu de ce qu'on appelle du flottant, c'est-à-dire d'actions en circulation qui vraiment puissent être transigées, parce qu'évidemment les plus gros actionnaires, ils n'avaient pas le droit de transiger, ou alors ils pouvaient pas faire ça parce que ça. Ça veut dire qu'il suffisait de quelques transactions pour que l'action elle monte beaucoup ou elle descende beaucoup. Donc ça faisait du yo-yo, donc ça ne rassurait pas évidemment de nouveaux investisseurs. donc des sites d'acquisition non plus. Bon, puis il y avait aussi une dimension, je dirais, interne. On a fait une fusion, nous, avec une autre entreprise qui était dans notre secteur, mais qui était en publicité plus de performance. Moi, j'étais un gars plus de contenu au départ. C'était un mariage de raison, et puis qui a pris longtemps à se faire, et puis on se faisait pas d'illusions, on savait que, tu sais, on avait des cultures extrêmement différentes, et puis, mais finalement, bon, bah, ça s'est quand même bien passé pendant deux, trois ans, mais disons qu'on savait qu'on n'était pas mariés forcément pour la vie. Et donc, en même temps, bah, quand un groupe, bon, parce qu'on a eu plusieurs discussions avec différents groupes, mais quand Rogers Media a montré un intérêt, bon, bah, on s'est dit, un prix qui nous semblait tout à fait correct, on s'est dit, pourquoi pas. Puis bon, moi, je pensais que c'était une façon de continuer à ce moment-là, de continuer à l'intérieur de l'entreprise et puis de développer ça. Mais bon, à peine la décision a été prise par Rogers d'acheter, dans les semaines suivantes, celui qui avait pris la décision a quitté l'entreprise, il y a eu une réorganisation, et puis bon, bah, la transaction s'est faite quand même, mais finalement, on fitait plus, une partie des activités ne fitait plus dans les plans, ce qui fait que je suis parti quelques mois plus tard après la transaction.
C'est une aventure assez impressionnante, puis rentrer en bourse, une fusion d'acquisition. Est-ce qu'à la fin, au moment de cette transaction-là, parce que là, il y a eu plusieurs, on dirait, actionnaires qui se sont intégrés, est-ce qu'il te restait quand même une certaine partie de l'organisation où il en reste?
Oui, mais j'étais évidemment un actionnaire minoritaire, tu sais, dans une entreprise publique. Mais oui, je veux dire, ça a été quand même, d'un point de vue financier, quand même très profitable pour moi. Là, je veux dire, c'est pas en restant journaliste que j'aurais pu mettre un peu de capital de côté, mais bon, c'est pas... Ça me permet d'avoir une certaine indépendance financière et puis de prendre des risques sur des nouveaux projets.
Puis parlons-en un petit peu de ces risques-là, ou plutôt de ces investissements, parce qu'on est capable de voir que parallèlement au travail que tu as fait avec Branchez-vous, tu as été capable de te garder assez occupé et tu sièges ou as siégé sur plusieurs conseils d'administration comme celui du journal Le Devoir ou encore de l'entreprise Contextful. On a d'ailleurs reçu Guillaume Bouchard sur le podcast, le CEO de l'entreprise, il y a quelques mois. On peut voir que tu es associé présentement chez l'agence de contenu 37e Avenue. Je suis curieux, avec tous ces projets, où va majoritairement ton temps en ce moment?
Bon, alors, ben, j'ai pas fait tout ça tout en même temps. Hein. En fait, la plupart de ce dont tu viens de parler, presque tout, ça s'est fait après Branchez-vous, parce que quand j'étais chez Branchez-vous, j'avais pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre, parce que là, diriger une entreprise en plus publique, c'était beaucoup de travail. Après ça, effectivement, bah, j'ai fait un peu, mais bon, l'essentiel de mon temps en ce moment, je dirais, c'est InfoBref, sur lequel je mets, je dirais, 110% de mon temps, et puis j'ai quelques pourcents supplémentaires de temps que je mets sur un peu d'implication dans des startups ou des entreprises dont je suis actionnaire, mais siéger sur un conseil d'administration, ça dépend quand il y a des moments où il y a des crises, il y a des décisions stratégiques à prendre, mais en dehors de ça, c'est pas le conseil d'administration qui gère l'entreprise, c'est de l'aide, de l'accompagnement, mais ça me prend moins de temps que, je veux dire, je suis assez focusé sur un projet à la fois.
Puis présentement, t'es impliqué dans combien d'organisations globalement, comme conseiller, personne sur le conseil d'administration?
Bah, impliqué dans des entreprises, je dirais 3. Il y en a 3 sur lesquelles je suis sur le conseil. Puis sinon, je suis sur un organisme universitaire, le Centre d'études sur les médias. Sinon, je suis actionnaire dans une quinzaine au total d'entreprises de start-up technologiques.
Quand même, assez impressionnant tout ça. Puis bon, ça nous ramène à InfoBref. Tu as lancé l'organisation en 2020, comme tu l'as dit un petit peu plus tôt. On le voit, là, présentement aux États-Unis, c'est une mode qui prend de plus en plus d'ampleur. Les infolettes, ce n'est pas né d'hier, mais on dirait que de plus en plus, les gens retournent à une consommation d'un email qu'ils ont envie de lire. On dirait que le marketing par courriel s'est noyé dans les 5-10 dernières années autour de promotions, d'offres agressives. On dirait que tranquillement, il y a une certaine mode qui revient à la base d'une infolette, c'est-à-dire un contenu qui est envoyé dans ta boîte courriel. J'amène un petit peu de contexte à l'audience. J'aimerais comprendre un petit peu l'élément déclencheur de InfoBref pour essayer de bien savoir qu'est-ce qui t'a poussé à lancer l'entreprise et également quelle est ta vision sur le long terme avec l'organisation.
Bah écoute, une bonne partie de la motivation, tu viens de bien l'exprimer. C'est un peu, alors c'est plus qu'une mode, mais oui, il y a un retour effectivement du courriel qui a survécu parce que il était là avant le web et il est encore là et il y a plein de technologies qui ont essayé de le remplacer et de s'en débarrasser, mais finalement c'est difficile de s'en passer. Et effectivement, il y a quelque chose qui est arrivé, c'est qui est une exploitation du courriel différente en mettant du contenu à l'intérieur du courriel, parce que jusqu'à présent les infolettres étaient essentiellement vues comme des moyens de promotion avec des liens. Donc c'est voici quelque chose, cliquez ici. Voici quelque chose, cliquez ici. Ce qui pour des raisons publicitaires se comprend, mais du point de vue du consommateur, bon bah c'est pas vraiment un contenu. Alors que c'est un véhicule simple, très peu cher, pour faire un contenu textuel, avec quelques éléments graphiques, mais assez simple parce qu'il y a des contraintes techniques, et qui peut être exploité pour faire un petit média. Donc pour des petits entrepreneurs en média. Waouh, c'est quelque chose à exploiter. Et en plus, c'est que contrairement à faire du média dans les médias sociaux, ben on a l'impression de contrôler davantage son audience, enfin de contrôler d'avoir une relation non seulement directe, et puis on a au moins une adresse de courriel, on peut engager une discussion et on n'est pas prisonnier d'une plateforme et d'un changement d'algorithme de Facebook qui peut faire que du jour au lendemain, ben, tout ce qui a été bâti, finalement ça vaut plus grand chose parce qu'on n'a plus accès, il faut payer maintenant pour parler à l'audience qu'on a bâtie. Là, c'est un peu différent. Donc, ça a été lancé par, le précurseur, ça a été le site Quartz, qui était un site justement d'information, mais plutôt destiné aux gens d'affaires et qui couvrait les technologies, qui a lancé une infolette qui s'appelle Daily Briefing. Ça doit faire pas loin d'une dizaine d'années. Et ça a été un peu le précurseur de ces infolettres quotidiennes de nouvelles. Puis il y en a plusieurs, et donc plusieurs qui m'ont inspiré, notamment Axios, qui est un gros succès aux États-Unis. Morning Brew, qui a été aussi un gros succès. Et puis donc, une des motivations, pour revenir à ta question, c'est de regarder. Moi, je suis pas très original. Moi, je regarde ce qu'il y a ailleurs et puis j'essaye de voir comment on peut l'adapter, puis comment on peut s'en inspirer, puis comment. Donc, je copie, j'essaye d'adapter du mieux possible. Et donc, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose de ce genre-là au Québec? Ça, c'était une motivation. L'autre, je dirais, je venais de travailler pendant 4 ans à l'agence 37e Avenue, l'agence de contenu. Donc, je suis toujours actionnaire. Et puis, j'ai fait pendant 4 ans donc du service pur de développement de stratégie de contenu et puis de rédaction. Mais c'était la première fois que je faisais du service pur. J'avais l'impression d'avoir fait un petit peu le tour. Et puis, l'agence se développe très bien et puis est très bien menée par son président et fondateur, Steve Proulx. Moi, je regardais des opportunités dans le domaine des médias. J'ai regardé pendant plusieurs années des projets d'acquisition dans le domaine des médias, et puis j'ai regardé plusieurs dossiers, puis pour plusieurs raisons ça s'est pas fait. Donc là, je me suis dit je vais essayer d'exploiter ce filon des infolettres et puis de réfléchir un petit peu, et donc c'est là-dessus que je suis parti. Donc je me suis inspiré de différents modèles, celui de Espresso aussi, de The Economist, qui est une très bonne infolettre quotidienne, pour faire un média d'information qui s'adresse aux gens d'affaires. C'est un vieux rêve, de faire quelque chose qui s'adresse aux gens d'affaires avec un branchez-vous. C'était plus généraliste, c'était pas aussi ciblé, il fallait qu'on soit large. Là, on n'a pas besoin d'être aussi large. On est quand même accessible et puis assez grand public, mais on vise vraiment davantage des décideurs, des gens qui ont des responsabilités et qui travaillent beaucoup et qui n'ont pas tellement de temps et puis qui n'ont pas le temps de liaiser. Et puis, on leur donne ce qui nous semble être l'information utile et importante et pertinente pour eux.
Puis donc, ultimement, j'imagine que ton modèle de revenu, parce que là, présentement, InfoBref, comment est-ce que vous êtes déjà en train de générer des revenus, ou ça va être dans quelques mois?
On commence, on a fait des projets pilotes. On est dans une optique vraiment, je dirais, de start-up plus que de mode.
Parce qu'il faut avoir une masse critique, là.
Il faut avoir une masse critique, effectivement. Donc, même si on est un produit quand même relativement ciblé et niché, il faut quand même avoir une audience suffisante pour intéresser les annonceurs. Et donc, ça, il faut la bâtir. Et donc, c'est dans ce processus-là qu'on est en ce moment. Puis ça avance bien. Mais on a commencé à faire des projets pilotes et puis avoir quelques clients qui ont essayé des choses et puis qui donnent des bons résultats. Donc on commence à vendre de la publicité un petit peu, et une forme de publicité qui est complètement différente de celle qu'on voit sur le web en ce moment, avec des bannières partout et puis de la vidéo qui part. En ce moment, tu vas sur un site de nouvelles, bah là, t'as une grosse pub en haut, à condition que t'aies pu ouvrir déjà l'application sans avoir un vidéo qui s'ouvre au début. Après ça, t'as une grosse pub en haut, puis après ça, tu commences ton texte, puis là, t'as une vidéo qui s'ouvre au milieu du texte, et puis elle se referme, et puis là, après ça, t'as une autre pub, et puis oh, t'as une pub à droite qui vient, et puis, je veux dire, c'est une expérience nul. Donc, faut pas s'étonner qu'il y ait... Alors que dans l'infolettre, nous, c'est très très sobre, c'est très très simple. Il y a en ce moment peu de pubs, mais même quand il y a de la pub, c'est de la pub qui est très intégrée. Il y a rien, il y a pas d'image qui bouge, il y a pas de cliquer ici, il y a pas. Donc, ça t'empêche pas de lire parce que c'est bien clair que quand t'as quelque chose sur l'écran d'autre chose que du texte, ben c'est sûr que ça gêne. Ça gêne ta lecture et ça gêne ta compréhension et ça gêne ta mémorisation. Donc c'est dans ce modèle-là. Donc c'est un modèle de publicité intégrée et de commandite de bulletin. Et là encore, on imite de façon sans gêne aucune les formules qui fonctionnent aux États-Unis dans les infolettres et qui ont été des grands succès. Donc on est confiant que tu sais ça. Je sais que ça va prendre un moment, mais je suis très confiant que ça va dans les prochaines années. On va avoir une base d'annonceurs commanditaires réguliers et puis bon bah qui va nous permettre de d'équilibrer le produit et puis après ça de développer des choses autour de ça.
Intéressant. J'aimerais passer à des questions un petit peu plus personnelles, Patrick, dont tu es un grand amateur de contenu. Est-ce que toi, de ton côté, tu en consommes beaucoup du contenu? Est-ce que tu es un amateur de lecture? Je serais curieux de savoir un petit peu à quoi ressemblent peut-être tes bulletins de nouvelles là, que tu lis le matin.
Ouf, mes bulletins, on est abonné à trop. Ce qu'il y a, c'est que je mélange le personnel et le professionnel parce qu'en fait, beaucoup de choses que je lis, mais je suis... Mon Dieu, on est abonné à Axios, à Bloomberg, à Quartz, à Morning Brew, à The Hustle, à The Peak, à Washington Post, New York Times, à Globe and Mail, les médias québécois. Je veux dire, pour sortir de la nouvelle et faire une sélection, il faut avoir une source déjà, et puis ça n'est qu'une partie des sources. Je te dirais que d'un point de vue plus personnel, ça me sert, mais je le signale quand même parce que il y a deux magazines que je lis depuis, un que je lis depuis très longtemps et un que je lis depuis quelques années que j'ai redécouvert parce qu'il a changé complètement et qui pour les gens qui bon, c'est The Economist et Bloomberg Business Week. Ces deux magazines exceptionnel. La qualité du contenu qu'il y a là-dedans, la profondeur, les choses qu'on découvre là-dedans, c'est incroyable. Et les insights d'affaires qu'on peut aller chercher, c'est vraiment remarquable. Bon, c'est disponible évidemment en numérique aussi. Moi, je le lis sur papier. Et il se trouve que je pense que encore plus que les infolettres, quand on est sur papier, ben, c'est comme quand on lit un livre. On peut se concentrer, on peut comprendre, se souvenir, réfléchir en même temps, tu sais, il y a un travail intellectuel qui se fait parce qu'on absorbe un contenu plutôt que d'être dans une masse, dans un fil de trucs où c'est pas la même immersion. Donc point de vue contenu, donc je consomme oui pas mal de contenu écrit, ça oui effectivement depuis très longtemps.
Podcast, ça ressemble à quoi?
Podcast, moi j'adore ça. J'ai pas le temps d'en écouter beaucoup parce que l'essentiel de mon travail, c'est d'écrire ou de corriger des textes. Donc, il n'est pas question de faire ça en écoutant quelqu'un qui te parle en même temps. Par contre, bon, ben, il y en a quand même. Alors moi, mon moment d'écoute de podcast, c'est soit la vaisselle, soit quand je ramasse les feuilles en automne, soit l'hiver quand je pelte ou quand je fais du ski de fond. Ça, c'est des moments vraiment assez longs pour pouvoir écouter des podcasts assez longs. Alors, j'écoute au Québec, il y a des bons podcasts, deux que j'écoute qui sont des partenaires d'ailleurs. C'est le Balano de Planif de Fabien Major qui parle de finances personnelles, mais qui est produit presque comme une émission de radio avec l'expérience. Fabien Major est un ancien morning man de radio avant d'être en finance. Un autre qui est aussi par un ancien de Radio-Canada qui est Pour votre info. De Laurent Terrien, qui fait des entrevues un peu comme toi, mais pas dans le même profil, et qui fait des contenus intéressants. Maintenant, en anglais, j'écoute plus de podcasts en anglais et des entrevues en profondeur sur des sujets limite techno, finance et un peu politique et géopolitique, les TED interviews. Alors ça s'est arrêté, je pense, j'espère que ça va reprendre, c'est arrêté l'an dernier, mais faite par Chris Anderson, le président des conférences TED, que j'avais eu la grande chance de rencontrer dans une vie antérieure quand il allait passer à Montréal il y a une quinzaine d'années. Bon, ben, fait des des excellentes entrevues de fond. J'aime beaucoup des émissions de la BBC. BBC Hard Talk, c'est des entrevues de 30 minutes, très sérieuses, avec plein de sortes de gens, et c'est de très bonne qualité. Analysis, eux, c'est plus un reportage sur un sujet l'un après l'autre. Bon, The Economist asks, qui est une entrevue. Bloomberg Masters in Business. Ça, c'est des entrevues avec des gens en finance faits par Barry Ritholtz. C'est des légendes qui, il y a aussi des gens plus récents, mais en capital de risque, en gestion de fonds,
préférés.
Et vraiment, il va au fond. Des choses plus courtes, The Indicator de Planet Money de NPR. Ça, c'est en 10 minutes. C'est très bien fait. Ça s'écoute très bien. C'est facile à faire. Truc de fond, Conversations with Tyler. Des entrevues de Tyler Cowen, qui est un professeur d'économie, qui lui aussi rentre dans des... Il fait des entrevues parfois plus tough que le ferait un journaliste, là, parce qu'il connaît ses dossiers. Il a fait sa recherche d'une façon incroyable. Et puis aussi, le dernier, ce serait les podcasts de la firme de capital de risque Andreessen Horowitz, aux États-Unis, donc A16Z, où ils font... Eux, ils sont très denses. Donc, il faut s'accrocher quand on écoute, là, parce qu'ils ont un montage qui fait que, oups, mais quand ils font une explication de quelque chose, ils sont vraiment à l'avant-garde. Ils ont accès au meilleur cerveau. C'est vraiment... pour se tenir à jour de vraiment des tendances émergentes, je pense, une bonne écoute.
Intéressant. Puis, routine, ça ressemble à quoi de ton côté, Patrick?
Écoute, routine, on se lève le matin, on lit des infolettres, et puis on commence à travailler, et puis c'est comme ça jusqu'au soir. Je te dirais que le soir, dans les dernières années, j'ai pris ce que je faisais pas avant, mais j'ai... Maintenant, je regarde de la vidéo et des séries parce que j'ai besoin d'une heure le soir pour... je me mettrai pas à lire un livre, même si j'en lis de temps en temps, mais parce que j'ai besoin de décompresser. Et donc, je regarde des séries pendant une heure pour me changer les idées, des choses pas trop compliquées, de l'action, du thriller. Voilà, j'ai pas une vie très excitante.
Ben, on est là, on regarde du contenu à longueur de journée, ça doit être ça. Là. Tu dois avoir des informations d'à peu près partout dans le monde que peu de gens ont accès parce que tu les lis toutes, là. Tu les lis toutes, les bulletins de nouvelles. C'est ça qui doit être fascinant là, à la fin de la journée.
Oui, ben, genre, on lit pas tout non plus parce que finalement, on se retrouve, nous, à faire le travail qu'on sauve à nos lecteurs, et donc ça veut dire que non, on lit pas tout, on voit passer beaucoup de titres, et puis on fait de la sélection, on lit des débuts, disons que ça n'a pas le sentiment d'avoir complété, d'avoir terminé quelque chose aussi bien que quand c'est pas dans le travail. Mais oui, bon, j'aime ça quand même, parce que...
Puis si on veut en apprendre plus sur InfoBref, j'imagine site internet, médias sociaux, où est-ce que c'est le meilleur endroit pour vous rejoindre?
Écoute, le plus simple, notre produit, c'est vraiment à infobref.com qu'on peut le voir, parce que sur la page d'accueil, infobref.com, on affiche à tout moment la dernière infolettre, donc l'infolettre la plus récente. Ça donne un exemple tout de suite aux gens de à quoi ça ressemble. Il y a tous nos articles, sinon nos anciens articles qui sont disponibles. Et puis, on peut s'abonner très facilement. Ça se prend 10-15 secondes. On met son courriel. Puis après ça, les gens peuvent, s'ils aiment pas ça, ils peuvent se désabonner dans les jours qui suivent. Et puis, on leur enverra pas de courriel. On leur envoie pas de publicité. C'est comme ils veulent. Mais je pense que ça vaut la peine d'essayer.
Fantastique. Patrick Pierrat, merci beaucoup d'avoir été sur le podcast aujourd'hui. Très fascinant l'évolution du marketing de contenu à travers les années. Tu l'as connu sur plusieurs décennies. Le contenu, le média, ça te connaît. Donc, j'ai été assez fasciné de voir comment ça s'est déroulé dans les années 90, au début des années 2000 et bien entendu maintenant en 2022. Merci beaucoup pour ton temps.
Merci à toi. Ça a été un grand plaisir.
Fantastique. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.